France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT, alors qu'un Américain vient d'avaler 70 hot dogs en 10 minutes, record du monde. Pourquoi? Vous avez posé la question, eh bien je ne sais rien et j'en m'inquiète. Eux, ils s'avalent de l'actualité à gogo, voire à triple gogo, mais ils ont une heure pour bien mâcher et ce soir les informés de France Info reçoivent Audrey Goutard, bonsoir, de la rédaction de France Télévisions, également le député Les Républicain de Lyonne, Guillaume Larrivé, bonsoir.
Bonsoir.
Éric Métou de l'Express, bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Manuit, bonsoir,
bonsoir.
De Technicart et grand seigneur,
bien sûr.
Voilà, grand seigneur. Et ce soir, nous parlerons également de plein de choses, hein, et notamment des taxes routières, du retour peut-être de l'écotaxe, d'opposition, d'abstention. Mais juste avant, nous recevons Fatima El-Ouazdi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente et fondatrice de Politiquel. Et avec vous, nous allons revenir sur l'hommage de la nation aujourd'hui à Simone Veil, sous un soleil éclatant, un gouvernement, quatre présidents, nombreux anonymes sont venus rendre hommage à donc Simone Veil, déjà rentrée dans l'histoire de son vivant, mais qui là va, par les mots du président de la République, rentrer au Panthéon avec son époux. Également, alors Fatima El-Ouazdi, vous êtes, vous, à l'origine de cette pétition pour la panthéonisation de Simone Veil. Ce soir, quel est votre sentiment, justement, quand vous l'avez appris, quand Emmanuel Macron l'a dit dans son discours tout à l'heure?
J'étais très émue. Honnêtement, quand on a fait la pétition, c'était très spontané. Notre première réaction, c'était « Merci, madame, pour tout ce que vous avez fait pour les Françaises et les Français de ce pays ». Et on a lancé cette pétition une heure après l'annonce de son décès et après avoir fait un communiqué de presse appelant à sa panthéonisation. Mmh. On s'est dit que c'était le meilleur moyen finalement pour nous les jeunes de lui rendre hommage. Et finalement, c'était une pétition qui a été très bien accueillie. Il y a eu plus de 13 pétitions sur la pétition, sur la plateforme où on a fait d'autres pétitions. Pardon. On a eu 50 000 personnes qui se sont inscrites uniquement pour signer notre pétition. Donc c'est pas des activistes traditionnels, c'est des gens qui veulent s'engager, qui veulent rendre hommage à Simone Veil. Et pour moi, c'était important aujourd'hui de dire et de donner ce chiffre-là. Et c'est vrai qu'on a accueilli avec beaucoup d'espoir cette panthéonisation, puisque finalement ce sera son corps qui va reposer avec son mari. Alors que finalement on s'orientait plus vers l'idée d'une plaque commémorative, et on avait fait cette démarche aussi de contacter le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes pour pousser cette idée auprès du président de la République.
Fatima El-Ouazdi, pourquoi c'est important finalement qu'elle repose au Panthéon? Est-ce que ça représente encore quelque chose, le Panthéon, aujourd'hui ou pas?
Oui, ça représente l'éternel de la République, l'héritage. Finalement, qu'est-ce qu'on attend des grandes femmes et des grands hommes de ce pays? C'est quelqu'un comme Simone Veil. Simone Veil, il n'y a personne comme elle, il n'y a personne qui a eu un parcours comme le sien. Aujourd'hui, c'est la figure féminine du XXe siècle, et des femmes comme Simone Veil, il y en a très peu. Et dans l'histoire de France, il n'y en a pas du tout, presque. Et donc pourquoi pas rendre hommage à cette dame en lui permettant d'accéder au Panthéon.
Alors il y a un élu de la République à notre table, c'est vous, Guillaume Larrivé. Pour vous, le panthéoniser justement une personnalité, c'est encore important, ou finalement c'est peut-être un réflexe d'une autre époque aujourd'hui? Est-ce que ça compte encore pour quelque chose, le Panthéon?
Je pense que la République française a besoin de rites, a besoin de cérémonies, a besoin de moments partagés, et la panthéonisation est un de ces rites. Il y a d'autres rites qui sont des rites locaux. Je pense notamment à des initiatives, par exemple dans ma ville, moi j'ai suggéré au conseil municipal d'Auxerre que la place du Palais de Justice soit nommée Simone Veil. Je pense que c'est important que les citoyens de France se retrouvent dans des lieux, dans des moments. Il y a des lieux de mémoire dont parlait Nora autrefois, et je pense qu'il y a des moments et des lieux qui permettent en effet de rendre hommage, de se souvenir. Et puis il faut aussi, je pense, entretenir la capacité d'admiration. Admirer, c'est regarder vers le haut. C'est bien, notamment pour les enfants, qu'on ait des exemples à admirer, tout simplement.
Fatima El-Ouazdi, 4 femmes, 5 maintenant avec Simone Veil au Panthéon sur 76. L'éternité a du mal à se féminiser un petit peu, non?
C'est le problème de l'histoire de France en termes de reconnaissance des femmes qui ont fait son histoire. L'histoire de France est finalement très masculine, et ça vient de quoi? Ça vient de la loi Salique. C'est pas les femmes qui pouvaient devenir reines. Donc depuis toujours, les femmes ont du retard dans l'histoire de France. Et c'est vrai que rendre hommage à des personnes comme Simone Veil, c'est important. Faire ce travail de mémoire, au-delà même de la panthéonisation et de sa sacralisation, c'est très important aussi. Donc maintenant, dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce sera important de trouver les moyens de faire des rites républicains pour rendre hommage à cette grande dame et à ce qu'elle nous laisse en termes d'idéal progressiste, européen et féministe.
Et ça représente justement pour des jeunes femmes qui s'engagent aujourd'hui dans le féminisme, est-ce que Simone Veil représente véritablement quelque chose ou c'est quand même une figure du passé aujourd'hui quand on s'engage en 2017?
Non, pas du tout, parce qu'il y a quelques années, on avait fait une campagne de communication apolitique où on mettait en avant des femmes comme Simone Veil, parce que pour nous, c'est un idéal de réussite politique. Elle a été plusieurs fois ministre, elle a été présidente du Parlement européen. Des femmes comme Simone Veil politiques qui réussissent à avoir des fonctions et qui réussissent à avoir des finalement de porter des lois de société difficiles face à des assemblées qui sont très opposées. Il y en a très peu. Aujourd'hui, je pense à Christiane Taubira qui voilà aussi un parcours qui est très inspirant pour des jeunes femmes qui veulent s'engager en politique. Et pour nous, c'est important de promouvoir des personnes comme Simone Veil.
Éric Métou, pour vous aujourd'hui, Simone Veil a sa place au Panthéon?
Je n'ai pas une affection particulière pour le Panthéon. Elle a sa place dans l'histoire de la République, après qu'elle soit enterrée là ou au cimetière de Montmartre. Les rites de la République m'échappent un peu, mais en tout cas, l'importance historique de Simone Veil et qu'on la martèle, c'est d'autant plus important que le boulot n'est pas fini. Enfin, vous parliez de féminisation tout à l'heure. Il y a 40% de députées féminines. Je ne sais pas si vous avez vu les images du Congrès. Il n'y avait que des mecs.
Il fallait
aller sur Twitter après la mort de Simone Veil. Il y a eu des choses formidables, la pétition en est une, il y a eu des choses épouvantables qui ont été dites, qui ont été redites encore et qu'on pensait enterrées. Donc ce qui est surtout important, c'est de dire que c'est une figure indispensable et inoubliable de la République, que son travail n'est pas fini, qu'il va falloir continuer. Et alors, si le fait qu'elle soit au Panthéon dit ça, tant mieux.
Fatima Elwazi.
C'est vrai, il y a quelque chose, je vais suivre ce que vient d'être dit. Quand on regarde d'abord pour le côté politique l'Assemblée, on a féminisé une partie de l'Assemblée, mais quand on regarde par exemple les questions au gouvernement, il n'y avait que 4 femmes qui ont posé des questions aujourd'hui pour 15 questions au gouvernement. Donc en fait, toute cette partie qualitative de la parité que Simone Veil défendait finalement, il y a encore du travail à être fait et c'est pour ça que nous on se mobilise à Politiquelle pour
promouvoir la parole en politique. Faut juste rappeler que son fameux discours quand elle présente sa loi sur l'interruption volontaire de grossesse, il y a 9 femmes à l'époque.
Oui, tout à fait. Donc, de toute façon, l'Assemblée a un problème de féminisation.
Elle continue de se faire insulter.
Allez, voilà, et ben on va en terminer là.
Désolée.
Pour Simone Veil. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas, Fatima Elwazdi, donc présidente et fondatrice de Politiquelle, pour votre pétition pour la panthéonisation de Simone Veil. Ça devrait arriver dans quelques semaines. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
C'est une information France Info. 580 postes vont finalement être supprimés chez Vivarte. Vivarte, cette entreprise de prêt-à-porter soumise à un plan de relance. 707 suppressions de postes étaient initialement prévues. Des annonces ce soir sur notre antenne de Patrick Puy, le PDG de Vivarte. 5 personnes arrêtées et 2 placées en détention provisoire après les opérations antiterroristes la nuit dernière à Anderlecht, près de Bruxelles et dans la banlieue de Lille. Information du parquet fédéral belge. 2 suspects accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste. Des armes, des détonateurs, des uniformes de policiers ont notamment été retrouvés pendant les perquisitions. Un rappel de steak haché dans 5 départements du sud-ouest de la France, de la viande commercialisée chez Leclerc, Auchan, Intermarché et Super U, des produits potentiellement contaminés par la bactérie et chez Escherichia coli. C'est l'abattoir qui lance ce rappel de produits achetés entre le 27 juin et le 5 juillet 2017. Le massif forestier des Morts dans le Var, placé en risque incendie très sévère, annonce de la préfecture sur son compte Twitter. 6 autres massifs forestiers du département du Var sont eux aussi placés en risque aux incendies, risque qualifié de sévère. L'actualité du football et un transfert à 60 millions d'euros. L'attaquant de Lyon, Alexandre Lacazette, part à Arsenal, annonce de l'Olympique Lyonnais. Double record pour une vente de joueurs de l'Olympique Lyonnais d'abord et également pour une acquisition au club londonien.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions, le député Les Républicains de Lyon, Guillaume Larrivé, Éric Métou de L'Express et Olivier Manuit de Technicart. Jamais le terme de science politique n'aura aussi bien porté son nom. Désormais, la vie de nos élus s'étudie au microscope, nous obligeant à troquer stylo, micro et caméra pour des blouses blanches. Et nous jubilons quand l'un d'entre nous ramène un échantillon, souvent un cheveu, d'un nouveau politique. Cette vie, justement, politique est tellement complexe que désormais, on classe les familles dans le tableau périodique des éléments chimiques. Ainsi, à droite, les Républicains sont le principal groupe d'opposition, mais il y a un groupe baptisé les Républicains constructifs, inscrits dans l'opposition, mais prêts à défendre le gouvernement. Les autres Républicains, plus nombreux, sont aussi divisés, puisqu'hier, ils sont 23 à avoir voté contre la confiance au gouvernement, et 75 à s'abstenir, parmi eux, le président du groupe, Christian Jacob, qui eh ben, critique le gouvernement. Voilà, ça peut faire un super jeu quand il pleut pendant les vacances, mais il y aurait une raison, en fait, à cette abstention, selon le député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin.
On a écouté avec attention ce qui nous a été dit ces dernières semaines. Et ces dernières semaines, le message qui était passé par grand nombre de nos concitoyens, c'était essayer sur au moins la forme de vous entendre, de vous respecter. Eh bien voilà, on a essayé de respecter le Premier ministre. C'est une première, hein, ces longues dernières années ou depuis X mandats, d'écouter ainsi le Premier ministre.
Voilà, Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche sur RFI. Juste avant de vous entendre, Guillaume Larrivé, Olivier Manu, est-ce que vous comprenez ce qui se passe, vous, là, en ce moment, à droite ou dans la Chambre des députés?
Je comprends qu'on est dans la suite de l'incroyable victoire du président Macron et que on est dans une situation où il y a moins d'opposants que sous le Second Empire, quasiment. Donc, je crois qu'il y a, je sais plus combien d'abstentions,
129.
Oui. Moi, personnellement,
c'est historique.
Je trouve ça tout à fait normal parce que, pour moi, le président Macron, c'est Fillon sans Pénélope, si vous voulez. C'est une version moderne et très, qui ne manque pas de fougue de la droite. Pour moi, c'est un président de droite. Donc, je comprends le malaise des Républicains et l'abstention égale soutien, bien sûr. Mm.
Alors Guillaume Larrivé, vous avez fait partie justement des 23 à avoir voté contre, et pourtant les autres, c'est vrai, dans votre groupe, les Républicains se sont abstenus. Est-ce que vous avez compris pourquoi ils se sont abstenus et quelle était l'ambiance après le vote dans le groupe Les Républicains?
D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'Assemblée nationale, c'est pas une caserne. Il n'y a pas des consignes, des soldats, des sous-officiers, des officiers, des chefs. Il y a des députés libres qui ont été élus au scrutin majoritaire dans des circonscriptions. Et chacun en conscience fait ce qu'il veut, en réalité. Ça, il faut quand même le souligner parce que ça me paraît assez majeur. Deuxièmement, il y a une réalité politique, c'est qu'aujourd'hui, la droite est dans une phase de décomposition. Je le dis, moi, je suis un député de droite, on est dans une phase de décomposition. On n'est pas du tout dans la recomposition. Aujourd'hui, il y a eu un désastre de l'élection présidentielle. Et il y a une phase qui est extrêmement incertaine avec des comportements effectivement qui parfois s'expliquent assez difficilement. Troisième et dernière remarque, moi je suis un garçon assez simple. Quand je ne suis pas pour, je suis contre. Et quand je suis contre, je vote contre. Ce qui me paraît assez simple, assez compréhensible, assez facile à expliquer. Ça ne veut pas dire que je vais voter bêtement et méchamment contre tous les textes tout le temps, etc. Demain matin, par exemple, je voterai pour la loi sur l'état d'urgence. Et je monterai à la tribune de l'Assemblée nationale pour l'expliquer devant le ministre de l'Intérieur. Mais globalement, sur les orientations générales du gouvernement d'Édouard Philippe, j'ai un certain nombre de désaccords profonds, et je les ai donc exprimés en toute liberté, en ne votant pas la confiance. Et lorsqu'on vote pas la confiance, eh ben, alors, on vote contre, ce qui est assez simple, et je ne vais pas m'en excuser.
Non, mais pourquoi justement, dans votre groupe, il y a quand même une partie déjà qui est divisée avec les constructifs, là pourquoi finalement des gens comme Christian Jacob qui ont été très violents envers Édouard Philippe à la tribune hier, pourquoi ils se sont abstenus? S'ils sont dans l'opposition, comme vous l'avez dit, il faut voter contre.
Moi, je n'ai pas envie de commenter ce qu'ils ont fait. Moi, je respecte Édouard Philippe, je l'aime bien, je le connais depuis 15 ans, on a été collègues au Conseil d'État, je trouve que sur la forme, son discours était plutôt réussi, il était sobre, il était concis, donc aucune agressivité là-dedans, mais voilà, on n'est pas d'accord, par exemple, sur la politique fiscale. Moi, si j'étais à sa place, je ne commencerais pas par faire payer aux Français un choc fiscal de 20 milliards d'euros en augmentant la CSG. Voilà. Donc, on a un désaccord. On dit de manière simple, aimable, agréable, mais on a un désaccord.
Simple, vos collègues, c'est-à-dire qu'ils se sont abstenus, c'est on n'injurie pas l'avenir, en fait. C'est ça?
Je ne sais pas, mais je pense que chez certains, il y a une sorte d'hypnose macronienne. Il y a une espèce de côté, un peu, une espèce de sidération. Le nouveau prince a été élu, le prince impérial, comme vous le disiez, ou comme vous le sous-entendiez. Et voilà, il est devenu très chic d'être dans cette espèce d'ambiance de quasi-parti unique. Moi, je crois au contraire que la démocratie, elle a besoin de pluralisme, elle a besoin de clivage, elle a besoin de respect, bien sûr, mais elle a besoin de différence. Parce que s'il n'y a plus de différence, et si certains voudraient faire une sorte de parti déraisonnable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'opposition, ça serait seulement Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et ça, pour mon pays, je ne le veux pas. Je pense qu'on a une droite raisonnable, une vraie droite à reconstruire.
Audrey Goutard, quand vous entendez ça, justement, alors,
quand on dit qu'il n'y a pas de mot d'ordre et qu'effectivement, chacun vote selon sa sensibilité et son ressenti, sur un vote aussi essentiel que celui-là, aussi symbolique que celui-là, le principe même d'un groupe à l'Assemblée ou le principe même d'un parti, c'est de donner un mot d'ordre et de voter tous d'un seul homme.
Ce qui n'est absolument pas le cas. La réunion de groupe hier matin...
Ah bah là, ça, je vous confirme que c'est pas le cas. Mais alors, c'est la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est qui est le patron, qui est le leader, et le fait que vous ayez pu voter... Voilà, le fait que vous ayez pu voter de votre côté, de façon totalement individuelle, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de boss, quoi. Voilà, et c'est la démonstration de ça.
Il n'y a évidemment aucun leadership. Et d'ailleurs, c'est plutôt heureux. Moi, vous savez, si j'ai été élu député en 2012 et réélu en 2017, c'est pas du tout pour aller obéir à des consignes. Autrement, j'aurais fait autre chose. Je serais adjudant dans l'armée, si vous voulez.
L'Assemblée ne peut pas fonctionner sans consignes et sans, esprit de groupe. Ça ne marche pas, sinon. C'est le principe du parti et de la groupe à l'Assemblée.
Je suis en désaccord total avec cette approche. Je crois précisément que l'Assemblée de la Nation, elle a besoin d'hommes et de femmes libres de leur vote. Il y a évidemment des sensibilités. Moi, je ne vais pas siéger à côté de Jean-Luc Mélenchon et je pense que souvent, nous aurons des désaccords. Mais je n'exclus pas non plus... Pourquoi pas que ponctuellement on puisse trouver un terrain d'entente? Il n'y a pas forcément de différence irréconciliable sur tous les sujets.
Éric Métou, est-ce que là on est au cœur justement du piège tendu par Emmanuel Macron avec un Premier ministre qui s'est dit de droite quand il est arrivé à Matignon avec la passation de pouvoir avec Bernard Cazeneuve, un ministre de l'économie de droite, un autre du budget de droite également. Là on sent que le piège, il est là, ça va être compliqué justement pour les Républicains sur la loi travail par exemple ou des mesures comme ça de ne pas aller pour.
Une politique de droite en tout cas pour l'instant, celle qui a été annoncée hier. Oui, c'est aussi une politique de droite, donc je comprends que ce ne soit pas très confortable, ni pour Christian Jacob, ni pour vous, de vous positionner par rapport à ça. C'est-à-dire que les seuls points d'accroche de l'opposition de droite aujourd'hui, c'est le Congrès, qui est quand même un thème plutôt misérable, et la CSG. Ça fait quand même pas des différences fondamentales, donc je pense que ça va être compliqué à terme de conserver cette.
Pardon, mais vous raisonnez complètement
de
à l'envers.
Polyvalence
Si je puis me permettre, vous raisonnez à l'envers.
Parlementaire.
Si je puis me permettre, vous raisonnez à l'envers. La question n'est pas de savoir si on va trouver un point d'accroche pour se différencier. Il ne s'agit pas de se différencier pour le plaisir de se différencier, de savoir qui va porter une cravate bleue, qui va porter une cravate rose, qui va porter une cravate rouge. Sur le fond, vous ne citez
que la CSG.
Pas du tout. Je signe par exemple demain. Dans le Figaro, une tribune sur la non-politique d'immigration, d'asile et de nationalité. On a là un vrai débat national à avoir pour savoir si on souhaite ou pas avoir une politique de réduction de l'immigration. C'est un sujet de différence. On a un sujet de différence majeur sur la question fiscale, qui n'est pas un point de détail. Comment fait-on pour redonner du pouvoir d'achat aux Français? C'est aussi un sujet sur lequel on est en désaccord. Par exemple, un exemple très concret. Moi, je crois que les ouvriers, les employés en France, lorsqu'ils font des heures supplémentaires, ils devraient bénéficier d'un ballon d'oxygène fiscal. Édouard Philippe ne le pense pas, n'en a pas parlé dans son discours de politique générale. C'est un point absolument fondamental qui concerne des millions de Français. Voilà, on a des différences, pardon de le dire, les différences, les divergences ne se sont pas aplanies comme par miracle sous l'effet de l'élection d'Emmanuel Macron.
On va continuer à en parler dans
mineurs.
Un instant.
Voilà, les différences mineures.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Trois personnes placées en garde à vue dans l'enquête sur la fourniture des armes d'Amédi Coulibaly, terroriste de l'attaque de l'hypercachère à Paris en janvier 2015. Deux femmes interpellées à Roubaix et un homme en région parisienne. Leur garde à vue peut durer théoriquement jusqu'à 96 heures. Amédi Coulibaly avait été abattu dans l'assaut par les forces de l'ordre. La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, confirme ce soir une des annonces d'Édouard Philippe hier lors de son discours de politique générale. 11 vaccins seront bien obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans à partir de l'an prochain. Rassurez-vous, ils seront pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Aujourd'hui, seulement 3 vaccins sont obligatoires, diphtérie, tétanos et polio, le fameux DT polio. Gros coup de chaud cet après-midi à bord d'un TGV Paris-Marseille, détourné en urgence en gare de Montbard en Côte d'Or après une panne et une rupture de climatisation. 1000 passagers à bord. Une jeune femme a fait un malaise. Les secours ont dû intervenir auprès de tous les passagers. Selon la SNCF, la panne est intervenue après le déclenchement de l'alarme incendie. La commune de Montbard a mis à disposition des passagers une salle municipale. Fin du suspense pour les 720 000 candidats au baccalauréat. Ils ont appris ce midi s'ils étaient admis, repêchés ou recalés. Le taux de réussite avant rattrapage s'établit à 78,6% cette année, en baisse d'un point par rapport à 2016. Pour les repêchés, ce n'est pas fini puisque les oraux vont s'enchaîner dès demain ou après-demain. Bon courage à eux.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de l'opposition. Hier, c'était le discours de politique générale d'Édouard Philippe, Premier ministre de son État. Et nous avons à table un représentant justement de la droite qui s'est divisé, non pas avec les constructifs, mais dans le groupe, puisque certains se sont abstenus, d'autres ont voté contre. Audrey Goutard, vous vouliez juste dire à Guillaume Larrivé.
Parce que Guillaume Larrivé, vous disiez tout à l'heure que par exemple, sur le droit d'asile, vous étiez totalement opposé à ce que proposait le gouvernement et que vous aviez l'intention de manifester cette opposition. Alors moi, j'avais noté justement que Éric Woerth avait dit au contraire que lui, il était favorable et que le groupe était favorable justement à ce que proposait le gouvernement en matière de sécurité et de droit d'asile et qu'en revanche, effectivement, il soutenait pas du tout le programme économique. Alors c'est, là, je trouve qu'on voit vraiment la difficulté que vous avez, la fracture, le niveau de fracture que vous avez. Vous êtes, voilà, sur le droit, ne serait-ce que sur le droit d'asile, vous êtes déjà, voilà,
non, complètement... Non, Audrey, pas du tout. Il faut parfois accepter, c'est pas un reproche que je vous fais, mais d'avoir un minimum de subtilité.
Jamais.
On est tous d'accord.
C'est pas un reproche du tout.
C'est pas un hyper compliment. On est tous d'accord pour dire que l'eau bout à 100 degrés. On est tous d'accord pour dire que la France doit respecter sa tradition d'asile.
Aux électeurs.
Je suis d'accord avec Édouard Philippe lorsqu'il dit que la France doit rester fidèle à sa tradition de l'asile. Ensuite, il faut donner un contenu à ça. Bon, et là, on a encore le droit d'avoir des différences, on a encore le droit d'avoir des débats. Moi, je suis assez surpris du point de vue démocratique de cette espèce d'ambiance. Ça fait 60 jours qu'Emmanuel Macron est élu président de la République. On est sur la défensive dès qu'on essaie d'émettre une opinion un peu différente de celle du nouveau pouvoir présidentiel.
Je revendique
totale liberté de parole dans le cadre de la République française.
Donc, par rapport à votre parti,
été le cas dès qu'un président est élu. On se souvient que ce soit Nicolas Sarkozy ou par exemple quand on parle de parti unique, on se souvient quand même de l'UMP qui était quand même une tentation de faire un parti unique
Avez sans doute raison. Je pense que la France souffre d'un excès de présidentialisme et d'un excès de personnalisation présidentielle. J'appelle ça en ce moment la tentation de la République impériale, mais au-delà de ça, je pense qu'il faudra s'interroger calmement, je vais peut-être écrire un bouquin là-dessus d'ailleurs, sur les effets de cette élection présidentielle tous les 5 ans qui me semble parfois un tout petit peu infantiliser la nation.
On change de République alors?
On doit s'interroger parfois sur l'efficacité
Olivier Manu, est-ce que c'est ça? C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, le leadership à droite, alors Guillaume Larrivé semble s'en féliciter.
Les derniers hommes libres. Les Républicains, c'est les derniers hippies de l'Assemblée. Hein, ils n'ont plus de chef, c'est le bordel, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais c'est vrai, parce que l'esprit de caserne que vous évoquiez, enfin, les ordres sont donnés et respectés chez La République En Marche. Il me semble que les députés de la France Insoumise, ils écoutent le camarade
c'est
Jean-Luc.
Très juste,
mais
c'est
alors
très
chez
juste.
Vous,
c'est très juste.
C'est royal au bar.
Mais il ne faut pas sous-estimer le poids d'une certaine tradition philosophique, politique, même idéologique. À droite, il y a certains héritiers de la tradition bonapartiste, gaulliste, qui étaient plutôt habitués à avoir des consignes. Et puis aussi, quand même, une tradition plus libérale qui accepte plus volontiers la diversité des points de vue. Et de ce point de vue-là, moi, je suis plutôt content de la diversité des points de vue, à une condition, c'est qu'on soit capable dans la durée quand même de reconstruire un petit peu de cohérence, de cohésion et d'unité.
Vous imaginez combien de temps ça peut prendre? On dit qu'il peut y avoir un congrès, un nouveau président au mois de décembre des Républicains. Est-ce que finalement ça va se faire vite? Est-ce que la ligne sera claire? Est-ce qu'elle sera choisie? Est-ce que vous ne craignez pas non plus la création d'un deuxième parti à droite?
Je ne pense pas qu'il faille aller plus vite que la musique, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut d'abord faire l'inventaire des failles idéologiques, pratiques, politiques qui ont conduit à ce désastre électoral au printemps. Et petit trois, je pense qu'il faut prendre le temps pour cela. Et je pense que voilà, il serait raisonnable de se donner un an pour reconstruire solidement la droite. Je ne pense pas du tout que la question prioritaire soit de se demander qui va être celui qui va porter le plus beau chapeau à plumes dès l'automne. Je pense qu'on a besoin de se mettre au clair sur le fond. On a besoin de travailler avec les partis de gouvernement étrangers en Europe. On a besoin d'aller voir des intellos, on a besoin de faire un travail de reconstruction qui se fera pas en quelques semaines.
Éric Pétou, dans un instant on parlera de Jean-Luc Mélenchon, mais on a l'impression que les Républicains qui ont le plus gros groupe finalement d'opposition, ils sont quand même 100, face à La République En Marche, la branche de gauche de La République En Marche, La France Insoumise, eux, ils ne sont que 16, et pourtant on entend beaucoup plus parler d'eux, et on a l'impression que ce sont les vrais opposants.
ans.
Voilà, pour le coup, ils sont tous rangés derrière le chef, donc c'est plus facile. Le chef parle et puis les autres relaient la parole du chef. Pour les Républicains, c'est la fin d'une fiction, c'est la fin de la fiction sarkozyste d'un seul parti qui réunissait d'un côté les jupéistes pour faire vite et puis de l'autre côté Laurent Wauquiez. Ben voilà, c'est terminé. On
c'était pas du tout le modèle Sarkozy, c'était le modèle chiracien.
On va revenir chiracien par ailleurs, mais bon, Sarkozy a renforcé encore ce modèle et puis on va revenir à la réalité, c'est-à-dire ben, l'UDF d'un côté, le RPR de l'autre, une droite plus bonapartiste, comme vous disiez, puis une autre plus libérale économiquement et dans les idées. Et puis ça, c'est ça la Ve République aussi. Et je pense que, en fait...
C'est un éternel recommencement.
Voilà, la réalité, elle est plutôt là que dans les 10 ou 15 dernières années qu'on a vécues au Parlement français. Ouais.
Allez, dans un instant, dans les informés de France Info, on parlera de la France insoumise, cette fois-ci, c'est sûr, hein, de Jean-Luc Mélenchon. On parlera également des nouvelles taxes et les routiers pourraient être mis à contribution. Mais il ne faut pas trop le dire en même temps. Enfin, on verra pourquoi. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Je suis Johan, arboriculteur dans la Drôme. Vous cherchez de bons abricots bergerons français ? Ils sont arrivés. Je les ai cultivés avec passion et avec toutes les forces de la nature. Car mes vergers sont éco-responsables. Ils préservent la biodiversité, les sols, les ressources en eau. Découvrez-les sur pêche-et-abricots-de-france.fr.
Dis, ferme tes yeux et imagine.
Vas-y.
Ce petit bijou de technologie.
Oui.
Le Samsung Galaxy S8.
Ah bah oui, j'imagine. Continue.
Avec 220€ remboursés.
Waouh, très beau.
Et encore plus beau.
Oui.
100€ de remise supplémentaire.
Alors là, c'est le rêve. Hein.
Non, la réalité.
En ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S8 avec un forfait sensation 20Go, profitez de 320€ remboursés. Rendez-vous vite en boutique. Offre soumise à condition conservant votre numéro et la reprise de votre ancien mobile. Engagement 24 mois.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Encore très estival, demain du soleil pour commencer la journée. Quelques nuages bas quand même vers le Languedoc-Roussillon. Ils seront nombreux du sud de la Bretagne vers la Charente et le sud de la Garonne. Ça se voilera un peu sur l'ouest. Quelques ondées pourraient déjà se produire. L'après-midi, les nuages concerneront la moitié ouest jusqu'aux Ardennes avec quelques ondées. Un risque d'orage pour le sud-ouest, mais aussi au nord de la Seine avec des orages ponctuels mais parfois violents. Ça restera très ensoleillé en allant vers l'est et la Méditerranée. Il fera très chaud, 15 à 21 degrés le matin, 25 à 33 dans l'ouest et le sud-est l'après-midi et 33 à 35 degrés entre le bassin parisien, le centre et l'est.
Au large comme sur la plage, les sauveteurs en mer sont toujours prêts à vous secourir. Soyez prêts à les soutenir.
Faites un don aux sauveteurs en mer sur jesoutiens.snsm.org.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Camille Revel, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. On revient d'abord sur cette première. La Cour de cassation ouvre la voie à la reconnaissance légale de deux parents en France pour les enfants nés d'une gestation pour autrui, une GPA à l'étranger. Elle devra passer par une procédure d'adoption. Parmi les familles qui avaient saisi la Cour sur ce dossier, un couple d'homosexuels élevant un enfant né d'une mère porteuse en Californie. Le conjoint du père biologique a formulé une demande d'adoption sans succès jusqu'ici, Sandrine Etoa-Andeg.
Après un combat de 10 ans, c'est une victoire pour l'autre papa de ce petit garçon. Il n'a pas donné son sperme pour concevoir l'enfant, mais comme son père biologique, il l'a voulu, l'aime, participe à son éducation. Ils auront désormais les mêmes droits. Maître Patrice Spinozzi, l'avocat du couple.
Cette solution, même si elle n'est pas complètement satisfaisante et qu'elle peut décevoir un certain nombre de couples, elle permet aujourd'hui de dire à n'importe quel enfant qui est issu d'une GPA qu'il aura la possibilité d'établir un lien de filiation à l'égard de ses deux parents, non seulement à l'égard de son parent biologique, cela est acquis, mais aussi, depuis aujourd'hui, à l'égard de son parent sociologique, par le biais d'une procédure d'adoption.
Déception et colère, en revanche, pour la famille Ménesson. Leurs jumelles de 17 ans sont nées par mère porteuse aux États-Unis. Elles voulaient la transcription de l'état civil américain en droit français. Pour Sylvie Ménesson, l'adoption est une fausse solution.
Un enfant ne peut être adopté que si la mère a renoncé à ses droits. La mère, c'est moi, je ne vais pas renoncer à mes droits. Qui au contraire aurait dû être accepté pour pouvoir adopter. Enfin, c'est totalement absurde. C'est un syllogisme total. C'est une façon de botter en touche, de renvoyer la balle à l'envoyeur qui a été le politique, qui pendant des années n'a rien fait.
Nos filles ne sont pas sur notre livret de famille, dit-elle. Si on décède, elles n'auront aucun droit.
Un reportage France Info signé Sandrine Etoa-Andegue. Objectif, contourner les barrières en passant par la voie des airs. PSA dépêche 2 hélicoptères pour transporter la marchandise issue de son usine de Sept-Fonds dans l'Allier, site bloqué depuis ce matin par des salariés de GMES. L'équipementier creusois a placé en liquidation judiciaire. Le repreneur GMD prévoit de ne reprendre que 120 salariés sur 277, faute de commandes suffisantes. Réaction du ministre de l'économie Bruno Le Maire, il appelle à la levée immédiate du blocage qui n'entraînera aucune solution, dit-il. 3 personnes, 2 femmes et 1 homme placés en garde à vue dans l'enquête sur la fourniture des armes à Amédi Coulibaly, après des interpellations à Roubaix en région parisienne. Information M6 confirmée à France Info. Amédi Coulibaly, c'est le terroriste qui a assassiné une policière municipale à Montrouge en 2015. 4 autres personnes le lendemain à l'hypercachère de la porte de Vincennes avant d'être abattues dans l'assaut des forces de l'ordre. Un mot de Wimbledon, c'est déjà terminé pour Lucas Pouille. Le Français est éliminé dès le 2e tour du tournoi de tennis. À 20h33 sur France Info, c'est la suite des Informés avec Jean-Mathieu Pernin.
20h-21h, les Informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les Informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils transpirent l'actualité. Ils ne détestent pas ça, d'ailleurs. Et ce sont les Informés de France Info reçoivent Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions, le député Les Républicains de Lyon, Guillaume Larrivé, Éric Métou de L'Express et Olivier Manuit de Technicart. Encore un petit point de politique, puisque pendant ce temps-là, lui, Jean-Luc Mélenchon, il vit à fond son mandat parlementaire. Il est officiellement député depuis une semaine, depuis qu'il a siégé la première fois, et profite de toutes les activités prévues à cet effet. Il a lancé un mouvement des sans-cravates, il manifeste, il proteste, fait des conférences de presse, ses troupes agitent le code du travail pendant l'allocution du Premier ministre. Il a même tenté de retrouver le siège de Jaurès pour s'y asseoir. Vous êtes déjà en vacances, pas de problème, Jean-Luc Mélenchon vous tient la place au chaud, puisqu'il appelle à la mobilisation contre la loi travail le 12 juillet prochain, soit mercredi prochain. Inarrêtable, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, c'est vrai. Nous souhaitons une bataille populaire et nous prenons notre part.
Une forme de soulèvement populaire, quoi, en quelque sorte.
Si je dis soulèvement, j'en prends pour 8 jours. Donc, on va dire de mobilisation populaire.
Mais pourquoi ne pas dire les mots ?
Parce que ce n'est pas dans
mes moyens. Ils traduisent votre pensée.
Je comprends, mais mon idée est celle d'une mobilisation. Un soulèvement voudrait dire que je lui donne un objectif de conquête du pouvoir, et c'est pas mon intention à cette étape.
Ouais, Jean-Luc Mélenchon ce matin sur BFM, Olivier Manuit, au début de l'été, mobilisé, est-ce que c'est possible ?
Ah, ça va pas marcher. Hein. À mon avis, ça va pas marcher parce que ne peuvent manifester ce jour-là, le 12 juillet, que des gens qui ont un CDI ou qui sont profs. Et ces deux-là sont en vacances. Et je vous le dis parce que je n'ai pas de CDI et je ne suis pas prof. D'accord. Et je travaille tout l'été et je n'ai pas de vacances. D'accord. Et donc je ne peux pas je peux partager les idées de la France insoumise, mais vous voyez, électoralement, techniquement, en fait, je ne suis pas compatible avec la manifestation du 12 juillet parce que je suis précaire et que je travaille.
Et donc c'est plus logique pour vous ce que les syndicats ont organisé le 12 paradoxe, septembre, par exemple.
Grand paradoxe, c'est que ce fantastique candidat Mélenchon, qui a été de la vie générale le meilleur candidat de la campagne, aujourd'hui, il continue sa campagne. Comme s'il savait pas que le président Macron avait été élu, il est toujours en campagne, il fait campagne à l'Assemblée. C'est un fantastique orateur et un fantastique clown et en même temps un grand intellectuel. Et petit à petit, il rentre dans le costume de Georges Marchais face à Giscard, c'est-à-dire un peu l'opposant utile pour pas dire l'idiot utile. C'est-à-dire, c'est quand même bien pratique d'avoir un Mélenchon à l'Assemblée. Ça discrédite bien l'opposition de gauche.
Alors, Éric Métou, est-ce qu'il y a aussi un combat derrière ça au meilleur opposant, Emmanuel Macron ? C'est-à-dire entre Marine Le Pen, peut-être les Républicains, Jean-Luc Mélenchon, il y a ce combat-là aussi derrière ?
Aujourd'hui, il n'y a pas combat. Il a gagné.
Pour vous, c'est l'opposant numéro 1, Emmanuel Macron ?
Là, pour l'instant, oui, il les a étalés à plate couture. On a parlé de la droite qui est trop occupé à s'entre déchirer pour faire ce boulot-là. Le Front National, ça va pas beaucoup mieux. Donc oui, il occupe tout l'espace, puis il a raison de le faire. Après, je pense qu'il y aura personne à la manifestation, mais c'est pas très grave. Il va attirer les télés, il va refaire des belles phrases, et c'est tout ce qu'il cherche en ce moment, c'est à garder les projecteurs sur lui. Mmh. Il le fait très très bien.
Audrey Goutard ?
Moi, je suis pas tout à fait. Enfin, on n'aura peut-être pas les salariés, mais il faut voir que l'électorat de Mélenchon, c'est aussi beaucoup les jeunes, c'est les étudiants. Oui. Les étudiants sont
aussi en vacances.
Ouais. Pas pas au... tous les étudiants ne sont pas en vacances.
Le 12, et
je pense qu'il y aura, moi je pense qu'il y aura du monde. Je pense
et c'est pas qu'à Paris, parce hein, que c'est des mobilisations,
c'est des mobilisations un peu partout et effectivement.
C'est sur les plages, quoi. Non, mais il y aura 500 personnes selon la police et puis 25 000 selon la France Insoumise, mais il y aura personne.
Il a un vrai talent pour manier les symboles et les termes. Il parle de bataille. C'est vrai que bataille, c'est un terme sensible et qui peut être dangereux parce qu'on peut imaginer effectivement que dans ces manifestations, il y aura les plus durs, les plus ultras. Et que je ne sais pas si les télévisions seront là pour voir du nombre, mais en tout cas, elles seront peut-être là pour voir un spectacle qui sera peut-être un spectacle de violence.
Vous dites comme pendant la loi Elcom et contre la loi
Elcom. Oui, exactement, exactement. Donc voilà, mais je pense qu'il y aura du... Moi, je parie pas sur le fait qu'il n'y ait personne. Je pense qu'il y aura du monde et je pense que c'est la seule, aujourd'hui, la seule opposition visible.
Olivier
donc,
Olivier
et paradoxalement, je trouve qu'il s'installe malgré tout dans le paysage. Parce que le gouvernement Macron, l'ère Macron va se déliter dans les 6 mois, il y aura beaucoup de difficultés, et c'est vrai qu'il n'y aura qu'un seul opposant, pas très crédible, mais il sera là, et il sera bien pratique aussi pour le président Macron, je pense.
Tous ceux qui voudront exprimer quelque chose et une colère, etc., seront là, je pense, le 12 juillet, puisqu'effectivement, ils symbolisent cette colère.
Guillaume Larrivé, quand vous l'avez vu, justement, venir à l'Assemblée nationale avec ses troupes, Jean-Luc Mélenchon, tout de suite faire une conférence sur les sans-cravates et choses comme ça, comment vous le percevez, vous, en tant que député, Jean-Luc Mélenchon ?
De manière assez contrastée. Il y a dans ce personnage la volonté précisément d'être un personnage. Il y a beaucoup de cabotinage, il y a une éloquence, il y a un style, il y a une allure. Plutôt sympathique d'ailleurs, côté vieil acteur sur le retour, qui est très heureux d'être dans l'hémicycle.
Grand intellectuel.
Magnifique orateur. Sympathique.
Quand vous ne vous faites pas engueuler, oui, il est sympathique. Ouais.
Il a aussi un côté bon camarade que je viens de découvrir. On a eu une conversation dans les couloirs de l'Assemblée mardi dernier, une conversation qui a roulé de manière assez inattendue sur le thème de Robespierre et de Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, parce qu'il se trouve que je suis le lointain successeur de Le Pelletier de Saint-Fargeau comme député de Lyon. On a parlé de ça, il m'a même proposé à la fin de la conversation qu'on fonde un club des amis de Robespierre et de Le Pelletier. Je lui ai dit quand même que j'allais un petit peu réfléchir parce que j'étais pas totalement sur une ligne robespierriste. Non, plus sérieusement, c'est un personnage, je pense qu'il a sa fonction et son utilité. L'Assemblée de la Nation, elle doit représenter la Nation. Il y a un courant, assurément, ça s'est exprimé dans les urnes, grosso modo un cinquième des personnes qui sont déplacées au mois d'avril pour voter pour le président de la République avaient choisi Mélenchon. Donc il y a un courant d'opinion, je trouve que c'est bien qu'il y soit. Je vais même vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Je trouve très bien aussi que Mme Le Pen soit députée à l'Assemblée nationale pour incarner aussi cette partie de l'opinion publique. Je ne suis pas d'accord avec elle, je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, mais je trouve normal, sain, naturel que l'Assemblée soit le lieu du débat démocratique. Précisément, Audrey, pour que ce débat ne se fasse pas dans la rue par l'affrontement. On a
donc
besoin que ça se fasse à
l'Assemblée.
Vous êtes
presque pour ces mesures de proportionnelles proposées par Emmanuel Macron ?
Non, je suis tout à fait favorable.
Comme ça, il y aura une meilleure représentation ?
Pas du tout. Je suis tout à fait favorable. Et d'ailleurs, la présence de Jean-Luc Mélenchon dans les Bouches-du-Rhône ou de Marine Le Pen dans le Nord prouve que c'est possible. Je suis tout à fait favorable à ce que les députés, nous soyons les élus d'une majorité de Français dans un territoire. Précisément, ça nous légitime. Moi, j'ai 52% des habitants de ma circonscription qui ont choisi de m'avoir comme représentant à l'Assemblée nationale. Ça vous donne une petite légitimité, ça vous donne 1577e de la représentation du peuple français. Et je trouve que c'est bien qu'on ait ce scrutin majoritaire ancré dans un territoire, parce que ça nous permet d'incarner aussi une partie du peuple français.
Vous avez bien travaillé le 1577.
C'est assez compliqué à prononcer.
Réfléchi. Allez, l'info, dans un instant, on va parler fiscalité. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Deux hélicoptères mobilisés pour contourner le blocage de l'usine PSA de Sept-Fonds dans l'Allier. Des salariés de l'équipementier automobile GMS en liquidation judiciaire bloquent depuis ce matin les accès au site où travaillent 560 personnes. Des carters et des disques de freinage sont notamment sortis par hélicoptère afin de fournir les usines de production de moteurs de Peugeot Citroën en France. Le pneumologue Michel Aubier est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour avoir menti il y a 2 ans sur ses liens avec le groupe Total. Menti à des sénateurs, c'est une première judiciaire, peine plus lourde que ce que demandait le parquet. Michel Aubier avait nié devant une commission sur la pollution de l'air qu'il était salarié par le groupe pétrolier. La confession de Ségolène Royal au micro de Questions d'Info ce soir sur LCP en partenariat avec France Info. L'ancienne ministre de l'écologie confie n'avoir pas eu l'audace de rompre avec le Parti Socialiste en 2007 alors qu'elle était candidate à la présidentielle. Ségolène Royal fait ainsi référence au parcours d'Emmanuel Macron qui, vous le savez, a créé son propre parti l'an dernier, en 2016. Le français Lucas Pouille éliminé dès le deuxième tour à Wimbledon. Défaite face au polonais Janowicz, 141e mondial. Le numéro 1 français, Joe Wilfried Tsonga, qualifié lui pour le troisième tour. Il a battu sans trembler l'italien Simone Bolelli en moins de 2 heures. 6-1, 7-5, 6-2. Un coup d'œil à la ligne d'arrivée du Tour de France. Ce soir, l'italien Fabio Aru remporte la 5e étape. Chris Froome prend le maillot jaune.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Tiens, et si on reparlait de l'écotaxe? Mais chut, arrête avec ça, c'est pas bien. Non, parce que l'écotaxe, quand même, arrête, je te dis, j'écoute pas. Voilà, on sent que certaines mesures gouvernementales peuvent traumatiser certains conseillers, autant vous le dire. Et pourtant, dans une interview publiée par le journal Les Échos, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, explique qu'il est, je cite, « nécessaire de réfléchir à une façon de faire payer les poids lourds, sans pour autant relancer en l'état le projet d'écotaxe qui, souvenez-vous, avait été abandonné par le précédent gouvernement. L'idée serait donc davantage de faire payer les transporteurs étrangers pour l'entretien des routes et non plus de prendre une mesure de protection pour l'environnement, mais difficile à mettre en place pour Catherine Ponce de l'Union des organisations syndicales des transports routiers.
Les pays ne peuvent pas délibérément imposer une taxe sur leur territoire à partir du moment où elle touche tous les autres pays européens. Ça ne se passe pas comme ça. On l'a vu par le passé, quand l'écotaxe est apparue, il nous a fallu 7 projets pour arriver à quelque chose qui, pour finir, a été rebuté. Tout simplement parce qu'au départ, les organisations professionnelles n'avaient pas été suffisamment concertées.
Voilà, Catherine Ponce, donc, de l'Union des organisations syndicales des transporteurs routiers. C'est vrai quand même, Audrey Goutard, que dès qu'on touche au transport, on sent que là, on prend des gants, mais alors des sacrés gants, en fait. Oui, hein, c'est vraiment dans les échos. Là, on ne dit même pas le nom d'écotaxe. On n'a plus le droit de le dire, d'ailleurs, je pense, au niveau politique, oui. Maintenant.
Alors, évidemment, ça crispe. C'est vrai que bon, les transports, c'est le nerf de la guerre économique. Mais là, on parle quand même de taxer les transports étrangers qui traversent le sol français. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut faire. Alors, on peut effectivement, cette dame parlait d'une absence de concertation, c'est certainement le premier projet était certainement maladroit. Mais il faut, à un moment donné, si on veut améliorer les conditions de vie des Français en matière d'écologie, etc., il faut bien prendre quelque part. Et là, voilà, c'est la solution. Et on y arrivera de toute façon. Là, il y a un moment, il faut sauter, il faut y aller, il faut plonger. Il faut être un peu politique. C'est ça, la politique. C'est à un moment donné d'imposer des choses qui ne plairont pas aux différentes professions et qui ne plairont pas aux transporteurs. Et ben voilà.
Olivier Manuy, il y a toujours un trauma. On se souvient quand même que en 2013, hein, ça avait coûté près d'un milliard quand même d'euros.
Le fils de Crao.
Non, Raon, c'était le chef syndicaliste des routiers.
C'était une référence à la bande dessinée, je vous rassure.
Mais l'histoire se répète. Raon, c'était l'homme qui faisait plier les...
Tarzan.
Excusez-moi.
Tarzan, je vois bien.
Il
vous
ressemble. J'ai essayé de me déguiser en lui, justement, mais je me suis trompé de casting. Enfin, en tout cas, voilà, l'histoire se répète. On avait... Oui, dès que vous touchez au routier ou au transporteur, c'est compliqué pour le gouvernement en place, mais je suis plutôt d'accord avec Audrey, inévitablement, on va en arriver là. Et puis, c'est la phase visible de la réalité du quinquennat Macron, c'est-à-dire que ce sera un quinquennat aussi très fiscal,
c'est ça.
Paradoxalement de droite, mais qui doit chercher de l'argent partout, et pourquoi pas les cigarettes, et pourquoi pas les routiers, et pourquoi pas tout ce que tu veux, avec le sourire.
Guillaume Larrivé.
Sur cette question de la taxe poids lourd, ouais, je pense qu'il faut être hyper concret. On a besoin de financer des projets d'infrastructure. Par exemple, à Auxerre, dans ma ville, je cherche 120 millions d'euros, je le dis, pour financer le contournement sud de la ville. Comment on les trouve, ces 120 millions d'euros? On ne va pas les trouver dans le budget courant, on a une dette publique qui avoisine à peu près 100% de ce qu'on produit chaque année, etc. etc. Donc il faut bien qu'on trouve des ressources, et je ne trouve pas absurde de dire qu'un certain nombre de poids lourds qui participent, évidemment, très directement à l'utilisation et donc à l'usure du réseau de transport, puissent aussi participer par leur activité au financement du renouvellement des infrastructures. Donc je trouve que c'est une réflexion qui doit être posée de manière sérieuse, de manière apaisée. Nicolas Sarkozy l'avait fait avec Nathalie Kosciusko-Morizet avec cette histoire d'écotaxe. François Hollande a pitoyablement reculé en 2012-2013. Ça coûtait d'ailleurs fort cher. On a perdu 10 ans en réalité. Je pense qu'il faut aborder ces questions de manière adulte et sereine.
Comme c'est vraiment un choix politique qui est contraire aux intérêts d'une corporation, ça ne peut se faire qu'en début de mandat, justement. Mmh. C'est, en fait, le tempo politique est très important. Et c'est en début de mandat, là, maintenant, qu'ils peuvent prendre cette décision. Ça ne sera pas en fin de mandat, quand ils seront fragilisés et quand, évidemment, la présidence sera beaucoup plus, plus fragile.
Éric Metou, pour vous, c'est vrai qu'on a l'impression, comme le disait Olivier Manuel, que hier, on l'a bien compris dans le discours du Premier ministre, il faut trouver de l'argent. Donc, on va un peu partout.
On va un peu partout. On va à des endroits qui étaient quand même bien balisés. Augmenter la cigarette, le diesel et le transport routier à étranger. Alors moi j'ai peur qu'effectivement au niveau européen ça se passe pas aussi facilement, mais le principe était déjà dans le programme de Macron, c'est pas une surprise. Après il se trouve que c'est des taxes éthiques, on va dire, d'une certaine manière, c'est-à-dire empêcher les gens de fumer, les faire avaler moins de particules fines et puis avoir des routes qui sont en bon état. Mmh. Sur le principe, ça va être difficile de défendre ça. Derrière, le jour où les routiers se mettent en grève, que les supermarchés sont vides et que les stations à essence sont prises d'assaut, c'est là que ça va devenir plus compliqué, y compris pour un quinquennat qui commence.
Et le paradoxe, c'est que pour un président aussi pro-européen, le projet de taxe là sur les cigarettes, c'est très anti-européen. Enfin, c'est très anti-harmonisation européenne. Aller faire un tour à Andorre, redevenez fumeur. 2,70 le paquet.
Nos voisins ont des paquets à 10 euros.
Oui, bien sûr, en Grande-Bretagne, mais c'est vrai qu'en Belgique, beaucoup de figurants se plaignent, par exemple en Belgique ou en Espagne.
Si ce projet de taxe supplémentaire, enfin, on va arriver à des paquets de cigarettes à 15-20 euros, si ça continue. Mais si vous êtes habité à Strasbourg, en 10 minutes, vous êtes en Allemagne.
On parle de 66 millions de personnes.
Il faut regarder les chiffres.
Il y a un lien direct entre la consommation du tabac et le prix du paquet de cigarettes.
Je vais juste dire que le paradoxe de ce président européen, c'est qu'il va, pour trouver de l'argent, mettre en place des taxes qui vont contribuer à un détournement de l'Europe.
Sa stratégie européenne, c'est aussi de forcer ses partenaires. Alors, sur le prix de la cigarette, je ne suis pas sûr. Derrière, ce n'est pas nécessairement de se concerter avec eux avant, c'est aussi de les entraîner.
Par exemple, sur le prix du tabac, on cherche de l'argent. Aujourd'hui, les dépenses en matière de santé et coût social du tabac, c'est près de 20 milliards d'euros. Les taxes ne rapportent que 16 milliards d'euros. Donc, c'est clair, le calcul a été fait, c'est ce que vous disiez. Si on veut un paquet qui équilibre les chiffres, c'est 13 euros. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut gagner de l'argent, avoir une santé plus solide et soigner les gens, eh bien voilà, il faut un paquet à 13 euros.
On parlera dans un instant de la taxe d'habitation, mais vous, Guillaume Larrivé, cette taxe à chaque fois du tabac, quel que soit le gouvernement d'ailleurs, hein, de droite comme de gauche, on s'y attaque souvent, mais on les laisse quand même en vente. On se dit autant interdire le tabac, non ?
Je suis pas un expert absolu de cette question fiscale du tabac. Je prétends pas avoir un avis absolument définitif sur tous les sujets. Un chiffre quand même, 78 000 décès prématurés chaque année à cause des addictions au tabac. Oui. Ça incite quand même à avoir une politique de santé publique qui désincite les jeunes à fumer. Enfin, pardon, j'ai l'impression de dire une évidence en disant ça, mais enfin, quand même, on a tous dans nos entourages des amis qui sont partis trop vite, qui ont été complètement ravagés. Voilà, il y a quand même un sujet de fond qui doit pas être négligé.
Et c'est vrai que chaque gouvernement, ça soit pas de droite de gauche, hein, la fumée, c'est s'y attaque et pourtant ça continue. On a l'impression que le paquet a beau être à 10 euros, 15 euros, derrière on continuera.
Puissance des lobbies.
Je pensais que c'est quelque chose.
Au bout du bout du bout, il y a un choix personnel.
Ouais, hein, bien sûr.
Pas, in fine, c'est un peu à chacun en conscience de s'interroger. Est-ce qu'il est bien raisonnable de fumer voilà.
On va continuer à parler de la finance et notamment de où trouver de l'argent avec cette fameuse taxe d'habitation qui, bon, pour l'instant, ça ne va pas être fait tout de suite, en tout cas. On verra ça dans un instant. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Des armes, des détonateurs et des uniformes de policiers retrouvés pendant les perquisitions. 5 personnes arrêtées et 2 placées en détention provisoire après les opérations antiterroristes de la nuit dernière à Anderlecht, près de Bruxelles et dans la banlieue de Lille. Information du parquet fédéral belge, 2 suspects accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste. Autre enquête liée à une affaire de terrorisme, toujours en cours, celle de l'attentat de l'Hypercacher à Paris en janvier 2015. 3 personnes ont été placées en garde à vue, soupçonnées d'avoir aidé à fournir des armes à Mehdi Koulibaly. 2 femmes ont été interpellées à Roubaix, 1 homme en région parisienne. Simone Veil entrera au Panthéon, annonce du président Emmanuel Macron ce matin en clôture de l'hommage de la nation à l'ancienne ministre rescapée de la Shoah, a disparu vendredi à l'âge de 89 ans. Simone Veil sera la cinquième femme à reposer au Panthéon. Elle y sera avec son époux Antoine Veil, l'hommage légitime d'une nation reconnaissante à une femme d'exception. Voilà la réaction de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. 581 postes sont finalement supprimés chez Vivarte, entreprise de prêt-à-porter soumise à un plan de relance. 707 suppressions de postes étaient initialement prévues. Des annonces ce soir sur notre antenne de Patrick Puy, le PDG de Vivarte. Un contrat à plus de 20 milliards d'euros, l'avionneur européen Airbus signe un accord portant sur la vente de 140 avions à la Chine. Transaction conclue à l'occasion d'une visite en Allemagne du président chinois Xi Jinping.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, ce n'est plus rendez l'argent, mais où se trouve l'argent, hein. Voilà, c'était un peu ça, Édouard Philippe, hier. Il faut respecter des critères de 3% européens. Et alors, Éric Métou, il y a une chose quand même, une mesure symbolique d'Emmanuel Macron qui, alors peut-être, on ne sait pas si ça se fera ou pas, c'est cette fameuse réforme de la taxe d'habitation. 80% des Français, normalement, ne devraient plus la payer, à un moment, normalement, à la fin du quinquennat. Là, on ne donne plus du tout d'échéance, on ne sait pas quand ça sera fait.
Bah, c'est un problème parce qu'il a quand même justifié la hausse de la CSG par la baisse de la taxe d'habitation en disant que tout ça était une somme à valeur nulle.
Ça.
Là, ça va devenir compliqué de faire ce calcul. Donc, je ne sais pas comment ils vont pouvoir justifier autrement que par la Cour des comptes, c'est-à-dire ce que tout le monde savait et ce que Emmanuel Macron savait pertinemment avant d'être élu, que la France est en déficit et que ça ne va pas être facile d'en sortir. Voilà, donc il hausse certaines taxes. Les seules baisses qu'il annonce, il les tiendra pas, ou en tout cas pas tout de suite.
Guillaume Larrivé, vous, sur cette taxe d'habitation, j'imagine que vous n'étiez pas pour, pendant la campagne présidentielle, la suppression cette taxe d'habitation.
Il y a un vrai mensonge, je le dis, de la part d'Emmanuel Macron et de son ministre Gérald Darmanin, sur cette question de la taxe d'habitation. Il y a un mensonge parce que, techniquement...
C'est converti, Gérald Darmanin, alors, c'est pour ça.
Oui, il a une colonne vertébrale extrêmement souple. Lorsque vous supprimez 80% de la taxe d'habitation, vous retirez techniquement une ressource fiscale à des collectivités. Or, dans la Constitution, il y a un principe d'autonomie des collectivités locales, et y compris d'autonomie budgétaire, qui fait que, en réalité, si vous supprimez la taxe d'habitation, vous êtes obligé d'affecter un autre impôt aux communes. Et en réalité, concrètement, et les Français qui nous écoutent le comprennent très bien, ça voudrait dire que même si Macron et Darmanin réussissent à supprimer la taxe d'habitation, ils recréeront un autre impôt. On retire dans la poche gauche ce qu'on donne dans la poche droite. Tout ça est complètement pipeau, si vous me permettez cette expression familière. Je pense vraiment que cette vraie fausse réforme suppression de la taxe d'habitation n'est pas sérieuse.
Et pourtant, Audrey Guttard, l'idée, c'était aussi de nous redonner du pouvoir d'achat. Ils se disent, voilà, comme ça on paye moins d'impôts locaux et comme ça on donne du pouvoir d'achat. Étonnant.
Oui, ça donnait du pouvoir d'achat et puis surtout symboliquement, c'était une mesure que les Français comprenaient facilement. C'est-à-dire que tous les gens autour de moi avec qui j'en discutais pendant les débats, etc., c'était vraiment la mesure phare qu'ils retenaient. Alors maintenant,
sauf
vous dites que c'était inapplicable, mais je n'ai pas entendu lors des débats de l'opposition expliquer que c'était inapplicable.
Oui,
c'est la première fois j'entends ce propos-là, mais ça n'a pas été dit pendant la campagne.
Ça n'a pas forcément été explicité. On en a parlé avec Éric Woerth, le nouveau président de la Commission des Finances, avec son prédécesseur Gilles Carrez. Je suis très affirmatif. Vous ne pouvez pas comme ça retirer des collectivités locales une part essentielle de leurs ressources
sans le
compenser.
Le problème, Guillaume Larrivé, c'est que Éric Woerth, à bout de dire ça, il s'est abstenu. Donc il laisse les mains libres aussi pour finalement supprimer cette taxe.
Ne mélangeons pas tout.
Ah bah si, en s'abstenant, il permet cette taxe de supprimer.
Non, le vote de confiance hier n'engage pas non plus tout le quinquennat. On va être saisi heureusement de projet de loi de finances ou pas.
Oui, bien sûr, mais c'est quand même symbolique.
Et en l'occurrence, encore une fois, sur cette histoire de taxe d'habitation, il y a beaucoup de faux-semblants. D'ailleurs, je me souviens qu'Emmanuel Macron avait quasiment improvisé la mesure sur le plateau d'un de vos confrères, Jean-Jacques Bourdin, pour ne pas le citer. C'était une mesure pour faire populaire, pour faire une annonce de pouvoir d'achat et pour compenser la hausse de la CSG, absolument.
Là, en début de semaine, il y a eu de nouveau des sondages sur le taux de confiance des Français et il était de nouveau en baisse. Il s'effrite de nouveau et effectivement une mesure aussi
symbolique. Il a remonté dans les derniers, les sondages là-dessus sont...
Dans le Monde, ma référence était Le Monde.
Moi c'est l'Express, excusez-moi.
Mais là du coup vraiment c'était une mesure qui était populaire, symbolique et ne pas donner de date, de laisser courir l'inconnu comme ça au niveau de la temporalité, je trouve ça extrêmement risqué.
Olivier Manoui et après Guillaume Larrière.
Ah ben c'est bidon. Hein,
pour vous, est-ce que ça décevant,
Est-ce que vous trouvez ça décevant?
Je trouve que c'est un politique génial, Macron, et il a beaucoup menti, et il continuera peut-être à le faire. Et en tout cas, quel artiste, mais c'est bidon, bien sûr. Et on est à deux doigts de découvrir qu'il va nous inventer une nouvelle vignette automobile pour les petits vieux. Hein. C'est des bonnes vieilles recettes, mais il y a urgence en même temps. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai l'impression que pour l'instant, le pays lui en tient pas rigueur. Et effectivement, vous, les derniers opposants, les hommes libres de l'Assemblée nationale, les Républicains, les hommes sans chef, avec une liberté de parole et d'action, c'est vrai que c'est étonnant que vous ne chargiez pas plus, que vous laissiez un peu à Marine Le Pen le privilège de souligner ces mensonges.
Rapidement, s'il vous plaît, Guillaume Larrière.
Il est nécessaire de s'exprimer d'une voix forte. Je vous remercie de m'en donner l'occasion. Sur la fiscalité, il y a une seule certitude depuis le discours d'Edouard Philippe hier. Il y a une seule certitude, c'est l'augmentation de la CSG en 2018, 20 milliards d'euros. Tout le reste, les baisses hypothétiques, c'est renvoyé au calendrier grec à 2020, 2021, 2022. Vous avez tout à fait raison. On est en train d'entrer dans le réel. Après les mensonges et les illusions de la campagne, on va entrer dans le réel. Et le réel, c'est la présentation d'une facture très élevée qui va, hélas, être payé par les Français.
C'est à suivre, en tout cas, pour les prochains jours. Merci beaucoup, Guillaume Larrivé, d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci, Audrey Goutard. Olivier Lanuy, alors, beaucoup de choses chez vous. Il y a Technicard, bien sûr. Retour dans le sexy, interview exclusive de Sébastien Tellier. Et justement, Nabila, qui nous dit dans Technicard, un meilleur régime fiscal pour les PME.
Absolument. Voilà, donc en tout cas,
s'engage.
Les experts.
Voilà, vous voyez, Guillaume Larrivé, vous pourriez embaucher
deux
comme ça.
Deux magazines pour le prix d'un
grand, grand seigneur, en effet. Magazine de gastronomie, voilà, indispensable. La une de l'Express, Eric Métou, cette semaine.
Simone Veil.
Simone Veil, bien sûr. Que l'on retrouve donc en une de l'Express.